Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie.
L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture.
C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles.
L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement.
Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie.
Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute!
Bonjour Corinne, bonjour Ernest, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Étienne.
Bonjour Étienne.
J'aimerais qu'on commence avec un peu une introduction à la ferme et un peu son histoire. Donc peut-être que vous pourriez nous raconter qui vous êtes et comment vous êtes arrivé sur ce lieu.
Donc je m'appelle Ernest Feffel, j'ai 66 ans. On est arrivé ici à cette ferme en 1966, voilà, parce qu'on est originaire de la région de Strasbourg, l'ouest de Strasbourg, dans les très bonnes terres de culture. Mais quand mon père a commencé en 1957 avec des charolaises, il cherchait à tout prix une ferme qui était d'un seul tenant et avec beaucoup de pâturage. En 66, ça s'est offert que ce lieu a été vendu aux enchères. Il a pu acquérir 170 hectares d'un seul tenant, situé au nord de la forêt d'Aguenau, donc beaucoup plus herbagé que le Korasberg. Le Korasberg, c'est les très bonnes terres de l'Eus. Voilà, alors à l'époque, il y avait quand même dans toute la région de l'outre-forêt dans laquelle nous nous trouvons, donc au nord d'Aguenau jusqu'à Wissembourg, donc vers la frontière allemande, c'était une région pas très dynamique du point de vue agricole. Les gens étaient un peu beaucoup double actifs parce que c'était la région du pétrole, le pêche-le-brun en fin de compte. Et donc, il a remis ses terres, il a défriché à l'époque, parce qu'il fallait beaucoup défricher, refaire des fossés, des drainages, parce qu'il faut quand même dire, à cette époque-là, on avait des saisons tout à fait normales. Hein. En hiver, il y avait de l'eau, en été, c'était orageux, il y avait des périodes un peu sèches, mais rien de comparable à aujourd'hui. Donc, là-bas, c'était le défrichage. Et puis remise en état, et aujourd'hui, ben, on refait un peu le contraire, parce qu'on a quand même su, pendant toutes ces années-là, on a su garder les fossés et les haies. Les haies, à un moment donné, on a coupé du bois pour bois de chauffage des gens de l'extérieur. À un moment donné, j'en ai broyé un petit peu, mais jamais à ras, pour les tailler en fin de compte. Et maintenant, depuis que Corinne est arrivée, il y a une douzaine d'années, ben, on n'a plus fait de broyat. On a laissé ça en place, on a laissé grandir. Et donc, les haies, elles sont aujourd'hui très efficaces. Et on peut jardiner, on trouve du bois. C'est vraiment un bon résultat, un joli cheminement en 60 ans. Quoi.
Moi, je vais me présenter aussi. Donc, moi, je suis Corinne Bloch et on est un couple recomposé. Effectivement, je suis arrivée ici il y a 12 ans. Et puis je suis formatrice en agroécologie à la base et maître composteur. J'ai réussi à me professionnaliser dans ce métier de maître composteur. J'étais d'ailleurs le premier maître composteur de France à temps plein, payé pour ne parler que de compost. Et c'est une mission que j'ai accomplie pour une association des développements de pays pendant 6 ans, et puis je me suis mise à mon compte. Ce que je fais encore aujourd'hui, je fais encore des animations et des conférences, et j'ai élargi mon sujet à la permaculture, au développement durable, enfin, et puis maintenant l'agroforesterie aussi. Voilà, donc moi je suis formatrice à la base, et quand je suis arrivée ici chez Ernest, moi mon école c'était une ferme en biodynamie sur les pentes du Mont Saint-Odile, la ferme de Truttenhausen. Et en Alsace, donc bien sûr. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oh, il y a un potentiel incroyable. Et Ernest était encore à l'agriculture, on va dire, chimique, quoi, et chose qui m'insupportait. Et on a fait ce chemin, j'ai observé pendant 1 an ou 2. Et puis petit à petit, on a cheminé vers une agriculture un peu différente. On s'est mis à cultiver autre chose et autrement, et puis vraiment à s'y prendre autrement. Et la porte d'entrée, ça a été le compost, bien sûr, puisque une des toutes premières choses qu'on a faites, c'est au lieu d'épandre le fumier pur, on a épandu le fumier composté pour limiter les dégâts de sangliers. Et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Ernest de l'intérêt de la chose. Et puis, pour en arriver là où on en est aujourd'hui, une belle ferme en bio et en agroforesterie. Voilà.
Et aujourd'hui, donc, la ferme continue avec un élevage de charolais comme votre père, Ernest.
Oui, donc mon père a commencé en 57 avec des charolaises. On est venu à Valbourg avec une soixantaine de vaches charolaises. En 1971, on a reconverti tout le troupeau en animaux inscrits, yearbook charolais, avec pédigré. Et à 17 ans, donc quand j'avais en 74, mon père a dit, si tu te sens capable, tu prends le cheptel en main et tu pourras faire ta sélection comme tu as envie de le faire. Et donc, je me suis très spécialisé dans la sélection de pédigré full French de charolaise. Il y avait la demande un peu par l'Allemagne, et puis j'ai promu la race charolaise un peu dans toute l'Europe, quoi. Surtout Europe, tout ce qu'il y avait vers l'Est, comme nous sommes parfaitement bilingues. Et puis aussi dans les pays baltes, en Roumanie, il fut un temps, il y a 10, 15 ans, il y a même 5 ans, on était encore pas mal dans les pays baltes. Le Covid, naturellement, a tout arrêté un peu avec les voyages. Et aujourd'hui, on a baissé un peu le cheptel. Donc, on était monté une fois à 150 mères vaches. Aujourd'hui, on est descendu à 90. Et toujours de la sélection. C'est ma passion. C'est toute ma vie. Et voilà. Et puis, on fait un peu de vente directe en viande une fois par mois. C'est un à côté. Et puis, voilà, on arrive maintenant à l'âge où je vais transférer la ferme à quelqu'un d'autre. Et puis, on essaiera quand même de continuer un peu. De continuer l'élevage charolais et puis surtout cette agroforesterie qu'on y tient beaucoup et à laisser les haies en place, à jardiner les haies, à planter encore des arbres et encore planter quelques haies transversales pour vraiment faire un super joli quadrillage. Et on est même avec la Fédération des chasseurs, on va même reconstituer une mare, un étang, quoi, dans un bas-fond qui est un peu humide, pour retrouver un peu toute la biodiversité qu'il y avait à l'époque, en fin de compte. Il y a 60 ans, c'était le paradis sur Terre, d'ailleurs, dans toute l'Europe. Mais en 50, en 60 ans, il y a tellement de choses qui ont disparu, c'est de la folie. C'est pourquoi ce chemin-là, encore plus accéléré ces dernières années, parce que c'est vraiment chouette de retrouver des escargots, des oiseaux. Là, au printemps, ça commence à chanter de partout. On retrouve pas mal de choses qui reviennent, mais il faut juste leur laisser l'endroit, le lieu où ils puissent se protéger et vivre et se développer, quoi.
Merci beaucoup déjà pour cette belle introduction. Et maintenant, bah justement, parlons de ces haies auxquelles vous avez fait allusion plusieurs fois. Donc la première étape, si je comprends bien, ça a été qu'il y avait de l'existant. Et donc, vous avez à un moment décidé de changer votre gestion de l'existant.
Ben, c'est tout simple. Il y a déjà des années, il y avait déjà des fortes sécheresses. Et je savais qu'en 1976, dans le Charolais, les gens commençaient à couper des haies pour nourrir un peu les vaches. Et j'avais toujours observé que les vaches, elles grignotent les haies aussi haut et aussi loin qu'elles peuvent. Donc, elles en ont besoin de ça. Elles en ont besoin de ça. Et puis, il y a des vitamines, des minéraux là-dedans. Elles recherchent. Et je crois qu'il y a 5 ans, on avait déjà une très forte sécheresse. 6 ans d'ailleurs. Et on a commencé à couper des haies, carrément, et puis même des grands arbres, des vieux aulnes, des vieux saules. On a coupé, on a mis ça dans le pré, les vaches, elles ont grignoté là-dedans, elles ont mangé toutes les feuilles, grignoté un peu les branchages. Ça, à partir du mois d'août, en principe, c'est le plus sec, et c'est là que les animaux ont besoin de nourriture, quoi. Et donc, on a coupé pas mal de bois, et ça, durant presque toutes les années. Et à l'époque, déjà, on savait qu'un jour, on va s'intéresser à la plaquette bois pour paillage. Vous savez, je suis quand même un peu de la vieille génération, mais je suis très ouvert et très, très curieux, et puis c'est très intéressant de changer, de s'y mettre. Il fallait quand même un peu de temps pour me convaincre qu'on va pailler des plaquettes bois. Il y a 7-8 ans, j'aurais dit, oh, c'est encore une idée un peu fofolle, quoi, pailler des plaquettes bois. Aujourd'hui, je ne pourrais plus en passer tellement que c'est efficace. Alors donc, on a coupé des haies, sauf l'année dernière, on n'en a pas fait. Il y a 3 ans, on en a fait énormément, parce qu'il faisait une sécheresse terrible chez nous en Alsace, plus qu'ailleurs. L'année dernière, on était un peu plus chanceux avec les orages. Et cette année, à mon avis, il faut s'attendre à nouveau à un gros coup climatique, quoi. Donc, on a toujours certaines lignières de près à rejardiner, à sortir des arbres, des haies. Puis ça repousse tellement vite. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis à cette plaquette de bois. Et puis, naturellement, on s'est intéressé aussi à replanter, à jardiner, à faire des formations, des conférences, et puis on est aussi invité à témoigner, et ça c'est, voilà, et c'est comme ça qu'on apprend toujours plus, tous les jours plus.
Oui, je voulais dire aussi, la deuxième étape après le compostage du fumier, ça a été de cultiver autre chose et autrement. Au lieu du maïs, on est passé à la culture d'un métail complexe. Et ça a été un grand chemin aussi de recherche, parce que j'avais rencontré des éleveurs, j'avais lu des choses là-dessus, puis j'ai rencontré des éleveurs qui cultivaient 9 variétés de plantes dans le même champ. Et je trouvais ça vraiment très intéressant parce que pour moi, mon approche, c'est toujours que la loi sacrée de la nature, c'est la biodiversité. Et je me suis dit, c'est sûrement un très bon moyen, si on mélange céréales et légumineuses, de nourrir les unes par les autres et de protéger les unes par les autres. Et donc, on a cherché ce qui pourrait marcher chez nous en Alsace. Et on a donc trouvé un mélange de 7 variétés. Donc, il y a 2 légumineuses, c'est le pois et la vesse. Et puis, 5 céréales. Ernest, tu me corriges si je me trompe. Il y a l'épeautre, le seigle, le triticale, il y a un peu d'avoine et parfois un peu de blé. Hein, c'est ça, voilà. Un petit fond comme ça. Voilà. Et on a cultivé ça et ça a tellement bien marché, ce truc-là. Et on s'est affranchi comme ça du maïs pour nourrir les bêtes. On a commencé à nourrir nos bêtes avec du métail en grains pour ce qui est des céréales et entier pour les veaux et broyé pour les vaches, mais en partie seulement un peu. On a un troupeau d'allaitantes, donc on en donne un peu à certaines époques de la vie, ça Ernest vous dira. Et puis on s'est mis à l'épeautre ancien, un vieil épeautre qui s'appelle Roter Tiroler, le rouge tyrolien, et c'est une variété qu'on cultive un petit peu chez nous en Alsace du Nord pour faire du pain. Et cette épeautre est une plante mais tellement merveilleuse aussi et qui nous a bien aidés. Parce que c'est un épeautre qui contient beaucoup de vitamine B9, c'est la vitamine de la fécondité. Et donc, nos vaches, elles remplissent mieux, elles viennent très vite, elles deviennent très vite pleines. Et puis, elle contient beaucoup d'enveloppes, et ces enveloppes sont un peu rugueuses. Et donc, ça développe chez les veaux qui le mangent entier un très bon système de rumination. Et on a été très contents de remplacer, on va dire, des cultures traditionnelles pour nourrir des bêtes, qui sont le maïs en silage et enfin tout ça, par ce métail, ce vieil épeautre. Et puis, bien sûr, on s'est mis à la luzerne, on fait des mélanges d'herbes dans les prairies, et puis notre très bon foin. Et on récolte aussi, on avait failli abandonner parce qu'Ernest disait « ouais, ça nourrit pas bien, non. » Mais c'est de la prairie Natura 2000 qui vient de l'autre côté du Rhin, donc en Allemagne. Donc on fait pas mal de kilomètres pour entretenir des paysages absolument merveilleux de l'autre côté du Rhin qui n'ont jamais été remembrés, avec des vergers, des prairies en fleurs. Enfin, c'est un lieu extraordinaire. Parfumé, c'est quelque chose d'incroyable à voir. Et donc c'est de la fauche tardive, de pré-inondable par remontée de nappe du Rhin, et c'est plein de fleurs. Et alors Ernest disait wow, ça nourrit pas ça, mais si, ce sont des plantes médicinales, ça sent la tisane d'herbe médicinale. Et voilà, et c'est avec ça qu'on nourrit nos vaches, on leur donne autre chose et autrement, quoi. Voilà, pour expliquer un petit peu de quoi on est venu et où on est allé. Alors avec tout ça, ce qui est drôle, c'est que les gens disaient « Ouais, mais si tu cultives pas de maïs, t'es pas un vrai paysan, toi. » Alors cette année, après 5 années d'application de la litière plaquée de bois, on a refait du maïs qu'on n'a pas traité avec ces machins qui tuent les abeilles, non, mais avec des oligo-éléments, des bactéries, tout ça. On a semé. On a tenu les sangliers à l'écart, hein, coup de fusil, bien sûr, évidemment. Et on a eu vraiment un résultat extraordinaire. Les agriculteurs venaient de loin pour voir ce maïs en pleine sécheresse, hein, qui était 2 fois haut comme Ernest, qui n'est pas petit. Combien tu mesures ?
1,80,
voilà. Et on a fait 80 quintaux hectares secs. Et ça, quand même, pour nous, voilà, c'est l'aboutissement d'une technique culturelle avec la litière plaquée de bois à laquelle on croit maintenant. Hein, on a fait nos preuves. Voilà.
Alors, on va revenir à la litière plaquée de bois amplement. Mais avant, je voulais que nos auditeurs aient une idée assez claire des systèmes agroforestiers et de leur développement. Et donc, la première chose, c'est que j'ai bien compris que vous valorisiez cette ressource avec, au début, le coupé pour du fourrage ligneux. Mais est-ce que c'était une ressource qui avait jamais disparu? Ou est-ce que c'est que, avant, à un moment, vous avez décidé de laisser repousser certaines zones, voire de planter, comme vous le mentionniez?
Non, on n'a jamais arraché les haies, on les a laissées en place, comme je vous ai dit, on a des fois coupé par endroits, même jamais rase, on a coupé les arbres pour faire de bois de chauffage, la haie, on l'a plus ou moins tenue un peu cadrée, on a replanté maintenant les endroits qui sont un peu vides, et quand on a des clôtures pour départager les parcelles où il n'y avait pas de haie, on ne fait rien, et puis c'est que de la haie naturelle qui commence à pousser partout, et là on replante un peu au milieu. Donc, c'est vraiment des haies vieilles, bien enracinées. Il y a tout le potentiel qui est là. Parce que replanter une nouvelle haie, c'est. Il faut attendre 20-30 ans pour avoir une haie un peu comme une vieille haie qui commence à produire. Donc là, nous avons beaucoup d'avance. Parce qu'on a su garder cette avance. Et ce qu'il y a aussi, on a quand même beaucoup d'endroits. On est entre 150 et 200 mètres, 250 mètres de quadrillage. Donc on peut encore en replanter un peu au milieu. Mais c'est vachement bien quadrillé déjà. Et c'est ce qui est très important. Et toutes les haies, elles se relient. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà acquis tout ça.
Les intervalles entre des rangées de haies, quand elles ne dépassent pas 300 mètres, créent un microclimat.
D'accord.
Et en fait, chez nous, ça s'est fait naturellement entre des haies anciennes qui existaient et puis qu'on a conservées, enfin qu'Ernest a conservées, et des ripisylves. Parce qu'on a quelques cours d'eau qui traversent le domaine et ce sont nos plus belles haies, bien sûr, ce sont les ripisylves, au bord desquelles poussent des saules, des aulnes, de vieux saules têtards aussi, que les amis bûcherons prenaient pour se chauffer. Seulement, ils ont tous pris 20 ou 30 ans et puis ils ont passé au fioul et au gaz. Donc, ces arbres têtards n'étaient plus recépés, les saules, pareil, n'étaient plus jardinés. Et du coup, on s'est retrouvé qu'un problème d'entretien qu'on a résolu finalement en l'utilisant en litière. Et on en est très, très, très content quand on voit le rendement d'un seul saule têtard en même pas. Là, on a recépé les premiers il y a 6 ou 8 ans, mais ils sont déjà énormes. Ce sont des fontaines à bois. Moi, je les appelle comme ça, des fontaines à bois. Donc, tous les 8-10 ans, ça se recèpe. Et au bout de 10 ans, vous en avez de nouveau autant. Et encore, et encore. Et c'est un paysage, mais vraiment magnifique, quoi. Et les saules têtards sont des espèces refuges pour beaucoup de bestioles cavernicoles, des oiseaux, des chauves-souris, des petits mammifères, enfin tout ça, des papillons, des insectes. Tout ça, c'est un écosystème en soi, un saule têtard, hein, comme un chêne. Et donc, on est très heureux d'avoir ce capital-là qu'on jardine. Nous, notre idée, vraiment, l'idée forte, c'est de jardiner la nature ordinaire. Voilà, c'est pas d'aller chercher notre bois dans les forêts, pas du tout, mais de jardiner la nature ordinaire. Donc, les haies, les vieilles haies, jardinons-les, redonnons-leur une nouvelle jeunesse. Je dis toujours, si on pouvait donner ça aux humains, ce serait formidable. On peut le faire pour les arbres, alors voilà quoi. C'est une belle régénération. Un arbre qui est taillé en têtard vit 4 fois plus longtemps qu'un autre. S'il n'était pas taillé en têtard, vous voyez? Donc, vous vous garantissez un capital à très, très, très long terme. Un saule vit 200 ans ou 300 ans, multiplié par 4, ça fait 800 ans, 1200 ans de récolte. C'est colossal. On a un capital dans les mains formidable, simplement en jardinant nos haies. Alors, les saules têtards se taillent en hauteur et on peut comme ça former en têtard tous les feuillus. Sauf les fruitiers, à part les noyers et les châtaigniers qui supportent mal, mais voilà, tous les feuillus se taillent en têtards. Chênes, érables, aulnes, saules, tout, 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 tout. Je pense que c'est là que les agriculteurs doivent voir, doivent jeter un nouveau regard sur leurs haies existantes, de les rajeunir, de les régénérer, comme ils aimeraient tant le faire pour eux-mêmes, hein. On aimerait tous, hein, pouvoir faire ça pour nous, mais pour les arbres, on peut. Voilà.
Après, naturellement, c'est un autre travail. C'est un travail que on connaît plus trop. Il faut prendre un télescopique, une tronçonneuse, et puis on fait du bois. Mais aujourd'hui, quand je fais du bois, je me dis, premièrement, je peux nourrir mes vaches. Deuxièmement, je travaille pour la biodiversité, pour bien entretenir toutes ces haies. Troisièmement, j'aurai des plaquettes de bois, je peux pailler mes vaches et j'aurai un super compost pour remettre au sol. Donc, il n'y a que des avantages. En plus, la plaquette de bois dans les stabules, ça assainit énormément. Ça assèche très bien et ça assainit l'air. Donc, les animaux sont très, très bien portants. Sauf que vous ne commandez pas un camion de paille, vous faites livrer à la maison et puis vous paillez avec la pailleuse. Hein. C'est un peu plus de boulot. Mais calculer ce boulot-là, le bois revient pas très cher. C'est le boulot qui coûtera hein, un tiers du prix de la paille en fin de compte si on le fait nous-mêmes, notre bois. Donc c'est quand même de l'argent qu'on économise et qu'on gagne sur cet argent, on l'investit dans le travail et dans les heures.
et dans le paysage.
C'est très intéressant, mais justement, je voulais vous demander, par rapport à ce fait de jardiner, une des raisons pourquoi beaucoup de gens ont arrêté aussi, c'est que c'est du temps de travail et que maintenant, les surfaces qu'on cultive sont beaucoup plus importantes. Vous parliez tout à l'heure de la ferme de 170 hectares, peut-être que vous avez même plus d'hectares aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous arrivez dans l'organisation du temps de travail? À quel moment dans l'année et comment vous arrivez à intégrer tout cela au fait d'être éleveur par ailleurs et avoir beaucoup de travail? Est-ce que c'est ça le défi ou est-ce que tout compte fait, ça se fait plutôt bien?
Ben, il faut s'y mettre, hein. Normalement, au mois de mars, là, on a coupé un peu, on a jardiné un peu. Là, on n'avait plus trop le temps parce que c'est humide. L'automne dernier, c'était un peu très humide pour couper beaucoup de bois parce qu'on esquinte un peu trop le sol. Mais bon, on verra cette année. Peut-être il y a une grosse période de sécheresse. On sera très content de pouvoir couper du bois, nourrir les vaches. Et ça sera généralement mois d'août, septembre. Bon, là, il y a plus de temps qu'en hiver quand tout le bétail est rentré. Il faut s'appliquer et puis le mettre dans le programme un peu de l'année, quoi. Naturellement, la ferme n'a pas grandi. On était déjà plus grand, mais on a retourné à 180 hectares, plus la trentaine en Allemagne. J'ai jamais voulu, moi personnellement, mon père c'était différent, mais j'ai jamais voulu agrandir la ferme. J'ai dit toujours, ce qu'on a et ce qu'on fait, on le fait très bien. L'élevage, la sélection, on le fait très bien. Il y aura assez de boulot et normalement, il y a assez de rentabilité pour faire tourner la ferme et le personnel. Ça, c'est ma conception. Et vous savez, quand on a des vaches, on est de toute façon astreint tous les jours. C'est une contrainte, c'est quelque chose qu'on aime. Et quand on aime, on fait. Et quand on aime la nature, quand on aime les oiseaux, les escargots, tous les petits insectes et tout ça, quand on est capable d'observer et de voir tout ce qui bouge autour de nous et qu'on veut garder tout ce vivant, ben on fait, on ne réfléchit plus. On fait. Et puis, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est rentable? Mais c'est quoi la rentabilité? Alors, je dis toujours, rentable pour moi, c'est de vivre dans un cadre de vie magnifique. Et j'arrive à en vivre financièrement aussi. Il faut retrouver un peu plus l'agriculture paysanne d'il y a 50, 60 ans. Le monde était magnifique à l'époque.
Ernest a encore connu les hamsters en Alsace et il en a attrapé parce que ça pullulait. Aujourd'hui, on les réintroduit à grands coups de millions. Et les castors aussi. Ce que je voulais vous dire, le gros du travail est quand même fait au moment où on change les poteaux de clôture et les barbelés. Parce que les poteaux pourrissent, les barbelés rouillent. Alors quand on renouvelle comme ça une clôture, on en a des kilomètres, hein, on en profite pour jardiner derrière. Et puis on se met à jour pour les 8-10 prochaines années, on va dire. Voilà. Mais on ne récolte pas que ce bois-là. On trouve aussi du bois ailleurs, par exemple. Là, on a eu un forestier qui nous a contactés parce qu'ils ont planté des épicéas à trop basse altitude et donc ils ont été scolités, c'était une panique, quoi. Donc, ils ont tout coupé et ils ont mis sur un tas, mais personne ne voulait de ce tas. Et ce tas est resté là pendant 3 ans à perdre ses aiguilles. C'était un joyeux bordel qui ressemblait vraiment plus à rien du tout et dont personne ne voulait. Et en fait, il nous a demandé, est-ce que vous, vraiment, vous pourriez le vouloir? On a dit, ben ouais. Et donc, on a envoyé le broyeur, c'est un entrepreneur qui a un broyeur. On l'a envoyé sur place, il a broyé tout ça, on l'a ramené à la ferme. On se le fait même livrer par camion, hein, par la même entreprise. Et on a intégré ça dans la litière de feuillus. Et ça s'est bien passé, très bien passé. On n'en met pas plus que 20%, il faut reconnaître. Parce que les épicéas et les résineux contiennent une molécule qui est anti-germinative. Ce qui fait que si on sème du blé dans un compost avec beaucoup d'épicéas broyés jeunes, eh ben ça germe très mal. Ça marche aussi pour le touya d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, on a eu ce cas-là. Et puis, on a d'autres sources encore qui sont de la sciure d'un monsieur qui tourne des manches d'outils pour les veaux, par exemple, c'est de la sciure. Ou le SDEA qui a la concession d'entretenir les berges de rivière, qui nous fait des gros tas, et c'est nous qui prenons la suite, toujours pareil, broyeur, camion, quoi. Voilà.
Puis par exemple, on a une ou deux scieries à portée de main qui coupent donc les planches et du bois, et là on récupère l'écorce. Voilà. Tout ça, c'est vachement bien. L'écorce, on laisse un peu composter, et puis on le remet dans nos andins, et puis on mélange tout ça. Ce que je voudrais encore dire, tout à l'heure, on avait parlé donc du bois et de la nourriture des vaches, etc. Un mot clé dans ma vie, de tout temps dans ma vie, c'est cultiver varié et nourrir et manger varié, très varié, le plus varié que possible. Quand vous variez les aliments, quand vous variez les mélanges de céréales à l'extérieur, rien de mono, le mono c'est tueur, il faut varier. La nature, elle fonctionne en varié. Et quand tout est bien varié, vous retrouvez beaucoup d'équilibre en tous sens. Et par exemple, mes vaches, cette année, par exemple, on ne nourrit pas de minéraux. Il y a du sel gemme, toujours à volonté, du sel normal à lécher. Et tout le reste, il y a de l'hypôtre pour les vaches, un petit hypôtre pur. Et puis tout le reste, c'est première coupe, prairie naturelle, prairie temporaire, deuxième coupe, troisième coupe. Il y a de la luzerne, il y a du Natura 2000. Et tout ça, c'est nourri varié. Une fois de ci, une fois de ça, une fois de ça. Et on a des résultats impeccables. On a déjà fait saillir, on a les naissances, elles commencent fin novembre. Toutes les vaches qui ont bêlé décembre, janvier jusqu'à mi-février, elles ont tous déjà été fécondées parce qu'elles viennent tout naturellement en chaleur et sans apport extérieur. Donc le varier, c'est très important. Et faire de la rentrer de la bonne nourriture. Ça, c'est aussi un point très important. C'est pourquoi le pressage, le fanage, la fourche, la météo, tout ça, c'est assez pointilleux.
Donc, j'ai vraiment envie qu'on aille à la litière, mais juste avant ça, je voulais que vous nous expliquiez de manière un peu chronologique la séquence d'intervention. Donc, si j'ai bien compris, jusqu'à là, généralement, vous allez essayer de venir intervenir sur la haie au mois d'août ou de septembre pour que les bêtes puissent aussi manger parce que c'est le moment dont elles en ont besoin. Et après, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment, enfin, comment est-ce que vous organisez la logistique autour des branches, le broyage, etc., pour qu'on ait un peu une idée de à quoi ça ressemble sur la saison?
Donc, jusqu'à présent, on a surtout coupé beaucoup, août-septembre, des fois aussi au mois de mars. Donc, au mois de mars, naturellement, c'est pas pour nourrir les animaux, c'est pour couper le bois pour les plaquettes. Et les vaches, quand elles se nourrissent à l'extérieur, à un moment donné, on prend le télescopique, on pousse tout ça sur des grands tas. Donc, ça, par exemple, si cet été, on devait en couper pour nourrir les vaches, on va broyer ça l'été prochain ou l'automne prochain. Donc, on laisse ça en place pendant un an pour que ça sèche bien et puis c'est broyé un an plus tard. C'est la méthode, la meilleure méthode, quoi. Et une fois que c'est broyé, ça refermente un peu, mais ça sèche très vite en fermentation. Parce que le bois, c'est creux, ça ne chauffe jamais de trop, il n'y a pas de risque d'incendie. Ça chauffe à 60-65 degrés maximum. Au-dessus, il y a une croûte qui se forme où il y a toute la vapeur d'eau qui remonte. Et puis à l'intérieur, ça sèche. Donc, ce qu'on coupe au printemps, bon, là, on a coupé un petit peu. On va sûrement le broyer en automne et puis le mélanger avec le vieux bois de l'année dernière. Et voilà, ça, c'est la chronologie. On met les plaquettes en place. Dès qu'on rentre les animaux, on met 10-15 cm au fond. On laisse un peu salir tout ce compost, ces plaquettes. Après, on commence à pailler. Donc, on fait du millefeuille. C'est la méthode, la meilleure méthode qu'on a trouvée. Au début, c'était on a fait du pur. Au début, on a fait trop haut. Donc, un millefeuille. Donc, généralement, deux fois par semaine, on passe avec le télescopique, avec le godet. Bon, il faut savoir un peu manier la machine. Et on épand donc 5, 10, 7, 8 cm de broye à bois sur toute la surface. Et entre, donc, les deux jours entre ou trois jours entre, on met une couche de paille avec la pailleuse. Et ça, ainsi de suite. Nos vaches, elles sont en stabulation libre, donc toutes couchées en zone libre, sur du sec. Elles sont enfermées dans un cornadis qui est surélevé à 40-50 cm. Donc là où elles sont enfermées une fois par jour, elles mangent quand même 2-3 heures et tout le reste du temps, elles les mangent aussi. Donc il y a quand même beaucoup de bouse derrière les vaches. Et là, c'est mou. Et là, on rajoute du copeau beaucoup plus souvent pour que ça reste toujours sec. Alors des fois, là, à cet endroit-là, il y a 1,20 m de copeaux. Mais aucun problème d'enfoncement, aucun problème de fermentation, tout ça, c'est très asséché. Et c'est là que les copeaux, ils prennent le plus de bouse, le plus d'énergie de la vache. Et tout ça mélangé avec tout le reste quant aux charges de fumier, c'est mis en andin à l'extérieur et c'est repassé 15 jours, 3 semaines avant d'épandre ce compost. C'est mélangé avec un retourneur d'andin de fumier quoi, pour faire une marchandise très homogène et que ça fermente encore un bon coup.
Et donc au niveau sanitaire, vous êtes très content de la litière, c'est-à-dire au niveau du résultat sur l'hygiène? Ouais.
Très, très, très content.
Absolument. Et puis le côté aussi qui est très intéressant, c'est qu'avant de commencer avec la litière plaquette bois, on avait quand même des cas de grippe, des affections respiratoires, parfois peut-être un nombril aussi, et puis... On a eu des problèmes de santé qui, je trouve, quand même, se sont bien améliorés avec cette litière plaquette bois. Je cherchais contre les grippes et les affections respiratoires une solution à base d'huile essentielle. Seulement, ça coûte vraiment très, très cher et puis nos stabulations sont vraiment vastes et je ne trouvais pas de solution qui soit abordable. Et en fait, quand on épand de la litière plaquette bois, parce qu'elle contient des huiles essentielles. Tous les bois contiennent des huiles essentielles, ça s'appelle des terpènes, et ces terpènes assainissent l'air ambiant. De ce fait, les affections respiratoires chez les veaux, bon, on en a toujours, mais beaucoup, beaucoup moins. Ça va beaucoup mieux. Les vaches, elles sont tellement propres, elles ont à peine les pieds sales, vous voyez, sauf si elles se couchent dans une bouse, évidemment. Mais autrement, elles sont propres, mais propres, blanches. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Je pourrais tenir une réunion, mettre des tables et des chaises au milieu de l'étable avec 1 mètre de fumier. Derrière les cornadis, on ne sentirait rien. Ça sent rien, ça sent vraiment, il n'y a aucune odeur d'ammoniac. Et tout ça, pour des veaux, des petits veaux, et même l'animal en général, et le paysan et l'agriculteur, bah c'est excellent d'avoir un air propre à respirer, quoi. Et c'est sûr que dans les boxes de vélage, bah parce qu'on a de la sciure, on met paille-sciure, mais là encore, pas d'odeur d'ammoniac, rien du tout. Et puis, les vaches ont des pies très propres, ce qui fait que les veaux, eh ben, ils têtent des pies très propres. Et donc, moins de problèmes digestifs aussi, à la clé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Ernest veut rajouter quelque chose sur l'état de santé.
Bon, c'est vrai, mettre les copeaux, mettre régulièrement de la paille, et tout ça bien propre, c'est un certain travail aussi, mais c'est un travail très bon pour les animaux, pour l'éleveur. Et puis, ça fait plaisir quand les animaux se sentent vraiment à l'aise. Chez nous, je dis toujours, les animaux, c'est logé en 5 étoiles. En été, c'est pareil. Quand il fait très chaud, etc., tout le monde est couché sous l'ombre. Le matin à 8h, tout le monde est déjà couché sous l'ombre. Elles ont bien mangé et puis toute la journée, elles se reposent. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau hein? C'est superbe.
Et alors, on n'a pas de problème de pattes. Avec les copeaux, tout le monde disait, ah là là, vous allez avoir des problèmes de pattes, ça va se mettre dans les onglons. Non,
rien du tout.
Rien du tout, pas une fois. Elles savent très bien. Alors, ce sont des copeaux qui font 3-4 cm de long. C'est la grille la plus fine que peut broyer notre prestataire. Alors certes, ça dure un peu plus longtemps que si on broyait à 8 ou à 10, mais la qualité est là. Vraiment, on n'a aucun problème de santé. Au contraire, ça résout des problèmes de santé. Des problèmes d'agronomie aussi, d'ailleurs. Et je veux dire, tout va bien pour nous.
Encore une précision, quand on broie ce bois qu'on a coupé pour les vaches, donc il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de brindilles. Au printemps, on récupère encore des branchages, on a un peu élagué certaines haies chez nous, tout ça, c'est un gros tas déjà de petites branches. Quand tout ça s'est broyé, quand c'est très sec, il y a beaucoup de fin là-dedans, donc tout ça s'est mélangé, c'est pas des copeaux, des plaquettes qu'on utilise pour la chaudière, c'est déjà, il y a quand même beaucoup de fin là-dedans et c'est ça ce qui est très intéressant. Ça aspire encore beaucoup plus, quoi.
Et ça fait une différence de coût. Parce que la qualité chaudière, elle est à 70 ou 80 euros tonne. Chez nous, comme il y a du mishmash, il y a de tout, du tout fin, de la poussière, des aiguilles de sapin, enfin tout ce que vous voulez. On plafonne à 30, 35, peut-être 40 maintenant euros tonne avec l'augmentation du prix de l'essence. Mais enfin, on est loin des 60, 70, 90 euros tonne pour la paille. Vraiment, ou 120 quand on a eu ces grosses sécheresses, la paille en Alsace est montée à 110, 120 euros tonne. Et nous, on était à 30 avec notre plaquette bois.
Il faut quand même préciser qu'une tonne de plaquette bois, ça équivaut à une tonne de paille. Donc, vous pouvez faire le calcul. Parce qu'une tonne de plaquette bois, c'est à peu près un bon 3 mètres cubes de plaquette. Donc, avec 3 mètres cubes de plaquette, on peut déjà alimenter une certaine surface.
Du coup, maintenant, on peut venir aussi à la partie compostage. Vous avez déjà mentionné le côté retourneur d'andain. Ma première question, c'était en termes de vitesse de décomposition par rapport à la paille. Est-ce qu'il y a besoin d'un compostage plus long ou est-ce qu'au final, vous êtes resté un peu sur les mêmes cycles?
Alors, je vous explique que ce n'est pas toujours si simple parce que nous sommes quand même encore en région tempérée et on a des saisons. Et le fumier qu'on produit, le compost qu'on produit, c'est quand même qu'en hiver, en principe, décembre à début avril. Et donc, voilà, on a sorti le fumier décembre, cet hiver, on a pu rallonger avec les copeaux, on a sorti 2 fois le fumier en fin de compte. Là, on sort peut-être un peu une 3e fois, et puis après, c'est fini. Et ce fumier frais de décembre et janvier, on l'a composté il y a 3-4 semaines, et on l'a épandu aujourd'hui, on n'en y pas encore. Si on pouvait encore le laisser un peu plus longtemps, ça serait peut-être encore mieux, mais c'est pas évident, sinon après on peut plus rentrer, c'est surtout pour les prés au printemps, pour les cultures ça sera en automne, donc pour les cultures c'est le fumier qu'on sort au mois d'avril, donc le dernier dans les stabules, il est prévu pour l'automne, pour les après la moisson, là c'est peut-être composté ou c'est, ça mûrit un peu plus longtemps, sinon si on voulait vraiment rallonger un peu le temps de compostage. Il faudrait tout le fumier de cet hiver, il faudrait le réserver pour l'automne prochain ou pour le printemps prochain. Et le printemps prochain, le fumier, le compost, il aura un an d'âge. Pour moi, autant tout ce que j'ai appris et vu, c'est un peu trop vieux. Donc, on avait aussi le problème des sangliers parce qu'on a expandu aussi des fois du fumier, mais non composté à l'époque. En automne, quand les animaux rentrent et quand il y a une période où on pouvait rouler à peu près sur les terres, on a sorti le fumier, mais c'était un régal pour les sangliers après parce que tous les vers de terre sont remontés. Donc ça, on l'a arrêté. On sort le compost en général mi-fin mars. Sur les prés surtout temporaires et quelques prés permanents, parce qu'on ne peut pas en mettre partout, sinon il en faudrait beaucoup plus. Parce qu'il faut quand même se dire, on a pas mal de prairies permanentes tout au long de la forêt d'Haguenau, parce qu'on est encadré par la forêt d'Haguenau. Là, les vaches, elles broutent tout le temps en été, et tout ce que la vache, elle exporte, tout ce qu'elle broute, elle remet dans le sol en fin de compte. Ce sont des prairies naturelles qui sont très riches, mais il y a les vaches qui broutent tout le temps.
Mais en tout cas, au moment où vous épandez ce fumier composté, vous n'avez pas de souci de copeaux de bois pas décomposés qui reviendraient après quand vous coupez du foin. Je veux dire, c'est suffisamment décomposé pour que ce soit acceptable, quoi.
C'est acceptable. Dans les prairies temporaires, donc dans les prairies naturelles où broutent les vaches, tout ça, ça se décompose au fur et à mesure puisqu'on ne récolte pas. Dans les temporaires, effectivement, c'est vrai, on retrouve quelques copeaux dans la mangeoire. Ce ne sont pas des corps étrangers, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Et puis, les quelques copeaux qu'on retrouve dans la mangeoire, on nettoie toutes les mangeoires tous les jours, on le remet dans le fumier. Ça dépend aussi des printemps. Si on a eu quand même ces dernières années, sauf exception, des printemps assez secs. Alors quand on épand le fumier maintenant et qu'il ne pleut plus beaucoup jusqu'à la récolte de l'herbe qui peut être fin mai, donc dans 2 mois, des fois on retrouve un peu plus le bois. Si c'est une période plus humide, le bois il descend plus dans le sol, il mycorhize encore plus vite. Voilà, au printemps, quand on retrouve du bois, là, c'est épandu. Si vous venez là en mi-avril, fin avril, vous soulevez un peu les plaquettes de bois, toutes les plaquettes, elles sentent le champignon et c'est mycorhizé par en dessous. C'est fantastique. Quand vous avez des champignons comme ça, vous pouvez dire le sol, tout ça, ça fonctionne. Alors, récolter, bon, on va pas ramasser trop à ras pour récolter tout le bois. Le bois, ça prend un certain temps, c'est vrai. Mais si vous revenez un an plus tard et vous n'avez pas épandu du compost depuis, vous ne trouvez plus rien. Le sol, il travaille, les vers de terre, ils travaillent, tout ça, ça travaille.
Moi, j'aime à dire que même si on épand un compost jeune et pas très bien décomposé, la terre termine le travail. Parce que les plaquettes, elles sont complètement imprégnées, elles sont humides, les champignons font leur travail. Pour nous, le but, c'est vraiment de faire une agriculture du carbone. Les agriculteurs ont longtemps raisonné NPK, et nous, on raisonne carbone, parce que le carbone se décompose en azote à long terme, mais entre-temps, il nourrit tous les mycéliums du sol. Et avoir un sol riche en mycélium, c'est vraiment une garantie de stockage de l'eau. Et dans ces périodes de sécheresse qu'on traverse, même nous ici en Alsace, absolument incroyable, on a eu l'été dernier 43 degrés à l'ombre au mois de juin. Alors ça, pour l'Alsace, c'est incroyable. Et on a eu autrefois des 30 degrés, mais c'était des canicules effroyables qui étaient suivies d'orages. Et là, on a 43 degrés à l'ombre et pas d'orage et pas de pluie pendant des mois. Mais ça n'existe pas, ça, chez nous, quoi. Donc, en fait, si, maintenant, c'est comme ça. C'est ça, le changement climatique. Et donc, en fait, on se dit que plus on pourra stocker de l'eau dans les sols à travers ces populations de mycélium, et mieux ça vaudra. Et effectivement, cette année, on a été résilient en matière de fourrage. On n'a plus du tout acheté de fourrage, alors que la première année où on s'y était mis, on a passé toute notre prime de conversion bio en achat de fourrage. Et cette année, on n'a pas acheté une seule botte, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quand même très, très efficace, tout ça.
Et j'ai une question un peu technique sur le compostage, c'est que le dernier épisode que j'ai enregistré avec Yves Etignard, où ils font aussi de la plaquette et aussi ils sont en train de composter leur litière, etc., lui me disait qu'il faisait le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de le composter, il le compactait pour enlever l'oxygène, pour empêcher qu'il fermente, parce qu'il préférait le mettre frais. En disant qu'en fait c'était important que que la bouse ne soit pas prédigérée par le compost et qu'elle arrive sur le sol où les micro-organismes du sol aient une matière plus fraîche. Donc là c'est les petits débats sur le compostage, mais je serais curieux de voir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est essentiel de retourner la litière ou est-ce que vous pourriez l'épandre juste comme elle est?
Alors, en tant que maître composteur, je me permets de répondre que le sol est aérobie et que ce qu'il aime, c'est des bactéries et des champignons et des mycéliums aérobie. Des bactéries dans un compost et des êtres vivants dans un compost, il y en a quand même 1 milliard par gramme. Et des mycéliums, il y en a 1 kilomètre par centimètre cube. Donc, si on veut nourrir le sol avec ce qui lui convient le mieux, c'est-à-dire des bactéries, des mycéliums qui lui correspondent complètement et qu'il va pouvoir assimiler très vite et très bien, je crois qu'il faut rester dans la même configuration. C'est un petit peu la différence entre épandre, par exemple, du digestat de méthaniseur anaérobie, qui sont des bactéries de pourriture, hein, je dirais ça comme ça. C'est comme si on vous nourrissait, vous, finalement, avec de la pourriture. Mais la terre, elle est aérobie. Elle veut fonctionner avec de l'aérobiose. Et nous, on essaye par tous les moyens de s'en rapprocher pour que la nourriture soit la plus adaptée possible aux 10 premiers centimètres du sol. Et je rappelle quand même que la vie sur Terre, toute la vie sur Terre, nous, tout ça dépend des 10 premiers centimètres du sol. Alors nous, on essaye de coopérer. On coopère avec cette faune, avec cette flore. Quand on épand notre compost, c'est pas comme qu'on va l'engluer avec du digestat ou du purin, vous voyez. Nous, tout ça, c'est du terreau, c'est de la terre, c'est déjà prédigéré. La terre l'assimile très, très vite, les plantes l'assimilent très, très vite, se développent. On n'a aucun problème de maladie dans nos plantes. Justement, passer en bio, vous savez, quand vous avez des maladies, des champignons, des je ne sais pas tout quoi, des fusarioses et j'en sais... Enfin, bref, voilà. Nous, on veut absolument éviter ça. On va prévenir ça. On dit toujours, un sol sain, ça donne des légumes sains et ça donne des céréales saines. Et pour obtenir un sol sain, on va lui donner ce qui lui plaît et ce qui lui convient le mieux. Ça, c'est notre philosophie. Et c'est pour ça qu'on nourrit notre sol avec un compost aérobie.
Et pour revenir un petit peu à la spécificité du copeau de bois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous dites que il y a vraiment eu des résultats agronomiques supérieurs une fois que la litière était composée de plaquettes plutôt que de paille, ou est-ce que en fait c'est n'importe quelle litière compostée ?
Ah oui, clairement. Alors je l'ai testé, figurez-vous, parce que j'ai rencontré des étudiants d'une université agricole en Allemagne, et je leur ai dit qu'est-ce que vous feriez avec un compost comme ça ? Là, il m'a dit mais madame. Des légumes gourmands aussi. Essayez voir le céleri, essayez voir le poireau. Alors, je l'ai testé. Effectivement, j'ai une parcelle de test, comme c'est mon métier. J'enseigne la permaculture, les jardins en lasagne, etc., etc. Donc, j'ai essayé. J'ai mis ce compost-là dans le sol. J'ai planté des céleris. C'était un sol qui avait été très peu cultivé. C'était une placette vraiment... je veux dire expérimentale et toute neuve, un sol pas jardiné, enfin rien du tout. Et en fait, j'ai eu des céleris, mais de la grosseur d'un ballon de football. Et juteux, pas creux du tout, quoi. Énorme en une saison, quoi. Sur un sol pauvre, pas terrible du tout, enfin rien, c'était pas un sol jardiné. Mes poireaux, mais magnifiques, quoi. Et je me suis dit, bon, ok, ça marche. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'utiliser dans nos céréales, dans nos prairies. Alors, on n'a pas fait d'analyse. Vous savez, au départ, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On y allait au pif, hein, comme ça, un petit peu de manière empirique, comme le font les agriculteurs. Hein, on fait des essais. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'herbe vert noir ou vert jaune. L'herbe, elle était juste magnifique, dense, drue, grasse. Et voilà, les céréales, enfin notre métail de toute façon, magnifique, en fleurs, dense, pas de saleté dedans non plus. Ça, c'était le grand avantage parce que en bio, on craint beaucoup les champs qui se salissent. Mais quand vous compostez votre fumier, vous faites chauffer et les graines de mauvaises herbes, vous en réduisez grossièrement, enfin une grosse partie, quoi. Et alors le champ, ben magnifique, quoi, il est propre. Un champ de métaille chez nous est propre. Même l'épeautre qui tâle énormément, le champ était propre parce que ben oui, on épand un compost, on va dire relativement jeune, relativement frais. C'est notre vieil ami Daniel Bray, ingénieur agro, qui nous avait dit Ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez de la Alice Sapritch ou de la Brigitte Bardot dans votre compost? Alors, pour les gens de notre âge, ça veut dire ce que ça veut dire. Alice Sapritch était une vieille comédienne acariâtre, voilà. Et Brigitte Bardot, bah, tout le monde connaît, hein, dans ses jeunes années. Voilà. Et il nous recommandait chaudement d'utiliser un compost plein de vigueur et jeune, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement, agronomiquement, on en est très, très satisfait.
Dans les terres de culture, parce que là, on remet un peu plus en culture, parce qu'il faut quand même se dire, avant de passer en bio, toutes nos terres de culture, il y a une quarantaine d'hectares, on a carrément mis du trèfle violet et du raie gras pour faire un nettoyage, voilà. Donc pendant 3-4 ans, on n'avait presque pas de culture, tout était en herbe et, ou en luzerne. Et là, on remet tout ça au fur et à mesure en culture et on travaille le sol que superficiellement. Donc, on travaille à disque, éventuellement à patte d'oie et puis pour faire la finition herse rotative. Et c'est tout. Ce qu'il faut quand même dire avec notre compost, c'est quelque chose de très sain. Il y a énormément de champignons qui se développent. Ça, c'est vachement important. Et plus aucune chimie et plus aucune monoculture, et rien de mono. Parce que si vous faites du mono, vous essayez d'écarter toutes les autres plantes pour juste favoriser la vôtre. Écarter les autres plantes, ça veut surtout dire travailler avec de la chimie. Donc vous tuez tout le cycle de la vie. Et si vous laissez vivre tout comme c'était aussi autrefois, toutes les plantes qui se marient, les insectes, les oiseaux, les vertébrés, tout ce monde-là travaille. Il travaille pour vous. C'est pourquoi l'importance de la haie, c'est maintenant véridique et c'est connu, on a fait plein d'analyses. En principe, l'idéal, si vous avez une belle haie en place, elle vous protège des cultures jusqu'à 70-75 mètres. Donc, avoir une belle haie, comme nous, on en a tous les 150 mètres, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui se régulent tout seul, mais il faut laisser le vivant en place. On a un très bon ami et il a un très très grand jardin. Et il y a des années, il voulait de fumier, j'en ai pas besoin, de fumier de vache, j'en ai pas besoin, de compost non plus. Il en a cherché l'année dernière quelques petites remorques avec sa voiture. Cette année, encore une fois, et là, il m'a demandé de lui ramener carrément une benne, donc 6-7 tonnes de ce compost. Il a dit, c'est fantastique. Et ça a un fin, fin jardinier. Voilà.
Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'arbre un peu dans la stratégie plus globale de la ferme et dans les problématiques auxquelles vous faites face?
L'arbre, effectivement, vous savez, c'est un grand climatiseur déjà. Tout autour de lui-même, il climatise. C'est une espèce de grande cheminée où l'eau circule et qui rafraîchit le climat. Donc, je pense que voilà. Et il y a cette histoire de stockage de carbone dans le sol. Un des grands oubliés de la lutte contre le changement climatique, c'est le carbone qu'on va pouvoir stocker dans les sols. Et l'arbre et les déchets de bois en général, la nature ordinaire, etc., c'est vraiment un vrai sujet, un véritable outil. La haie et les ripisylves sont de véritables outils pour lutter contre le changement climatique. Alors chez nous, sur le bassin Rameuse, la nouvelle politique du bassin, c'est justement que l'eau, là où elle tombe, elle doit pouvoir s'infiltrer. Alors ça, c'est pour nous vraiment la nouvelle dynamique. On va essayer de travailler ça avec nos petites rivières, avec nos ripisylves. On a déjà tenté, et ça marche plutôt bien, d'écréter les crues d'une petite rivière qu'on laisse s'épandre dans la vallée. On a mis toute la vallée sous eau, simplement en la laissant inonder la vallée. On a enlevé un gué. Et puis, tous les copains agriculteurs disent « Mais vous êtes fous, il faut drainer, il faut enlever ça, ça va pas. » Mais non, écréter une crue quand ça dure que 2-3 jours, ça ne nuit absolument pas à la ripisylve. Au contraire, tout va bien. Et l'eau a le temps de s'infiltrer dans le sol. On essaye maintenant de travailler avec l'arbre dans le sol, ce carbone, ce bon carbone dans le sol, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. C'est vraiment notre question, quoi.
Au tout début, on a mentionné aussi l'utilisation du fourrage ligneux. C'était un peu le point de départ de l'histoire qu'Ernest nous a racontée. Aujourd'hui, je voudrais savoir comment ça se passe, très pratiquement, c'est-à-dire juste on coupe l'arbre, on laisse les vaches venir se servir.
Alors, nous, on nourrit les vaches à partir de mi-juillet avec du saule marceau, du saule cendré. Ce sont des saules buissonnants qui deviennent très vite envahissants. Hein. Ils s'élargissent, et dès qu'ils touchent le sol, ils repartent. Donc, ils drageonnent, quoi, en fait. Et le fait de les jardiner, donc on fait une petite tête au sol, quoi, si vous voulez. On fait une boule au sol. C'est comme ça qu'on doit recéper toutes les haies, d'ailleurs, les noisetiers, les fusains, etc., etc. Et donc, ces saules buissonnants, on les retaille au sol et on sort ces branches du fossé avec le télescopique. On les pose là, on les distribue dans les troupeaux par remorque entière. Les vaches mangent tout ce qu'elles peuvent et tout ce qu'elles veulent. C'est très, très riche en minéraux, hein, d'ailleurs, et en vitamines. C'est quelque chose de très important, surtout que fin août, elles se préparent déjà au prochain vélage. Et donc, elles ont besoin de minéraux et de refaire le plein comme ça. Après, quand elles ont fini de tout manger, et on fait ça aussi d'ailleurs avec des aulnes ou avec des saules plus grands, mais on aime bien recéper nos haies de saules marceaux et cendrés, ces petits buissons de haies qui deviennent vite encombrants, quoi, pour le nourrissage des vaches. Et donc après, ben, on prend toutes ces branches qu'elles n'ont pas mangées, on en fait un tas. Et puis quand le broyeur vient, on va dire au mois d'octobre, novembre, par là, ben, il broie tout ça et puis ça se passe très bien.
D'accord. Donc ça vous gêne pas en fait ces tas de branches, ils sont dans des parcelles qui sont suffisamment grandes et finalement c'est pas un souci outre mesure quoi.
Non. Non, non.
Exactement.
Non, ça gêne pas du tout et les vaches, elles s'y frottent, elles s'y grattent, voilà. Et puis, vous savez, quand on coupe du bois en hiver, quand les vaches sortent après au printemps, ben, c'est la première des choses qu'elles vont aller manger, hein. C'est les bois des haies, les jeunes bourgeons, les jeunes pousses, et puis les petites branches fines de ces grands tas de bois qu'on a coupés pendant l'hiver, les petites branches terminales toutes fines, là, elles grignotent après tout l'été. Pendant que le bois sèche, c'est leur ration de minéraux. Ça nous économise aussi d'acheter des seaux alléchés de minéraux ou je ne sais pas quoi, quoi. Voilà. Pour nous, tout est dans l'arbre, hein. Le côté fourrager, pour nous, il est central et important. Et c'est aussi pour ça qu'on est bien content de ne plus tailler nos haies. C'est nos vaches qui taillent nos haies autour des pâturages.
Bon, il y a quand même un point essentiel, toutes les haies sont clôturées, sauf là où il y a des cultures, elles ne sont pas clôturées, donc là on peut y travailler facilement. Normalement, les vaches, il ne faut pas les laisser rentrer dans les haies, sinon elles bousillent tous les petits plants, etc. C'est bien clôturé, la vache, elle fait le jardinage
Latéral.
latéral et horizontal, aussitôt qu'elle y arrive, donc ça fait parapluie et parasol. Parapluie quand il pleut et parasol quand c'est fait très chaud, elles sont en dessous, elles se couchent. Et c'est très important. Sinon, à un moment donné, avec des charolaises, avec des cornes, des grands animaux, vous n'avez plus de haies, elles esquintent un peu tout, quoi. Surtout les saules, elles mangeraient tous les saules, quoi. Et même les grands arbres, on aime bien avoir chacun sa place, voilà. Les vaches d'un côté, les arbres, les haies d'un autre côté, et puis c'est clôturé à une bonne largeur, et puis tout le reste, on laisse aller. On a tous les ans un tronçon où il y a des vieux arbres, des vieux saules, où c'est encore le cas cette année, et des vieux aulnes, vraiment à la vieille rivière, au cours d'eau. Là, on va couper, on va faire des grosses coupes parce que tout ça rejaillit après, et puis on reclôture. Et donc, ces gros arbres, ça nous donne quand même du volume. Parce que l'hiver dernier, enfin cet hiver-là, on a utilisé presque 2000 mètres cubes de bois, c'est déjà immense. Donc, il faut déjà des gros tas de bois. C'est pas avec des petits branchages et puis des saules marceaux qu'on arrive à faire vraiment autant de volume. Donc, il faut aussi du gros bois. Là, par exemple, nous avons une petite forêt qui est à la ferme, 4,5 hectares. On y était juste avant-hier. Il y a pas mal de bois qui est tombé, aussi des aulnes, des saules, du bois tendre qui est tombé. Ben, c'est du bois mort. Celui-là, on va le sortir et puis on va le broyer pour l'hiver prochain. C'est du bois tendre, hein, du bois tendre.
D'accord. Mais tout compte fait, si vous deviez être totalement autonome sur la quantité de bois que vous passez sur la litière, est-ce qu'il faudrait avoir encore plus de haies, tout compte fait?
Oui, on a quand même à peu près, je dirais, entre 8 et 10 km de haies, aussi le long des rivières, etc. Tout ça pousse. Là, on a fait donc des ripisylves, donc des saules qu'on a coupés en têtards il y a 5 ans. Ben, d'ici 3-4 ans, on pourrait tout recouper, sans problème, hein. Il y a tellement de rejets, et puis des rejets, il y a des saules qui ont 10 à 15 à 20 rejets, et des rejets qui vont faire 20, 25 cm d'ici quelques années. Alors, si vous prenez tous ces rejets, et par rapport à un seul tronc de saule, ça fera presque la même quantité, hein. C'est impressionnant comme ça pousse. Si ça ne pousse plus, il n'y aura plus rien qui va pousser. Parce qu'ils ont toujours les pieds dans l'eau ou dans l'humidité en profondeur, même si le petit cours d'eau, il assèche en été, mais il y aura toujours encore des réserves. impressionnant comme ce bois, ça pousse tout seul. Il y a juste à récolter, et à récolter intelligemment. Parce que quand on coupe des arbres ou quand on coupe des haies, on coupe jamais tout ras, jamais. Parce qu'il y a plein de petits plants, plein de petits arbres qui sont par-ci, par-là, même dans les ronces, il y a des petits chênes qui reviennent, etc. On nettoie un peu autour et hop, là, c'est parti. Et comme ça, le long du cours d'eau, c'est tellement large, il y a tellement de réserves, il y a plein de plants qui attendent juste à être éclaircis. Donc, on coupe un peu le plus gros, un peu ce qui est tordu. Même des fois, il y a du merisier qu'on pourrait même récolter, même des peupliers, des fois, qui sont venus aussi comme ça, qu'on récolte pour les planches. Et puis, on en laisse de temps à autre. Il y a pas mal de jeunes bois. Et dans 3-4 ans, ce jeune bois, ben, il s'est petit tellement vite. On a tout près de la ferme, on avait un saule. Il y a 5 ans, c'était un petit saule. Aujourd'hui, c'est un saule énorme, tellement vite ça pousse.
C'est vrai.
À vous écouter, on a l'impression que vous avez un système qui est assez abouti. Est-ce que vous avez quand même encore des projets de développement autour de l'arbre sur la ferme ou tout compte fait, vous êtes assez content de gérer l'existant ?
On a déjà assez de travail à gérer l'existant. On va encore planter un peu, on va faire une mare, voilà, et puis on va peut-être refaire une autre mare. C'était un peu des anciens trous d'eau, des affaissements miniers chez nous, comme il y avait le Pechelbronn. Oui, encore tellement de belles choses à faire et à développer. La nature, elle est chouette. Et quand on est maître dehors et observer tout ça et tout le retour qu'on a, ben c'est éternel. On a du boulot tout le temps. Là, je rêve, si j'avais la retraite et pas toutes les vaches à m'en occuper encore, à avoir une petite scie à la main, une petite tronçonneuse sur une tige et puis à nettoyer un peu les jeunes troncs d'arbres pour que ça fasse des jolis arbres plus tard. Il y a pas mal de chênes qui poussent chez nous, etc. Des merisiers. Donc un jardinier, continuer à jardiner. Je pourrais m'occuper la moitié de l'année à faire que ça.
Ça serait un beau travail de paysan retraité.
Ça viendra peut-être.
On n'y est pas encore. Vous savez, Victor Hugo a dit une très belle phrase. Il a dit « L'humus des villes doit retourner à la campagne ». Et c'est vrai, hein, parce que quand on regarde un petit peu toutes les haies, tout l'espace rural ordinaire qui est dans les villages, tous les déchets de bois des villages, etc. Il faudrait pouvoir rendre ça à la terre autour et on serait tous bien plus heureux et on mangerait une alimentation riche et facile à produire, quoi, hein.
Corinne et Ernest, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec nous.
Merci à vous, Étienne, de nous avoir interrogés. Et puis, on est très heureux, effectivement, de partager notre expérience avec nos collègues.
Merci, Étienne. Toujours avec grand plaisir, on partage et on essaie d'essaimer notre nouvelle formule pour entretenir le paysage et la paysannerie, surtout.
Cet épisode de Cambium est déjà terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt !